knew that I would not. So good, so good, I got you.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Comme d'habitude, I Feel Good, c'est 30 minutes, un petit peu moins, pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui vous partage son énergie, son envie de s'engager. Alors Jean-Claude, qui est mon invité, lui, il a commencé par un placement à la DAS. Avant, il a fait des rencontres qui lui ont permis d'avoir un repère. Et puis, sa vie, eh ben, c'est ce sillon d'engagement et puis ce point de départ qui a mal commencé. Peut-être. On va voir avec lui comment on avance dans la vie, même quand le départ est peut-être un petit peu difficile. Madame, mademoiselle, messieurs, c'est 30 belles minutes que je vous propose de rencontre avec Jean-Claude Blin.
So good, so good, I got you.
Bonjour Jean-Claude, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bah, c'est moi qui vous remercie de votre accueil.
Trois dates importantes dans ta vie, on va commencer tout de suite pour situer, parce que cette date-là, elle est importante. C'est le 7 septembre 1972, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, le 7 septembre 1972, nous partions pour une maison d'enfants dans les Vosges à Darney, près de Darney, qui s'appelait Droitval. Une maison accueillant 120 garçons, de limite d'âge de 6 à 18 ans, 19 ans. Et c'était pour moi donc un nouveau départ dans la vie.
Alors un nouveau départ, mais ça veut dire que ta maman te confiait?
Non, le juge des enfants a pris l'affaire en main via les services sociaux de la Meuse et nous avons été enlevés parce que ma maman était seule avec cinq garçons et une fille. Donc nous avons été enlevés suite à de graves difficultés.
Alors quand tu dis enlevés, c'est-à-dire que le juge vous a placés?
Le juge nous a confié à la DAS, oui, et placé dans une maison d'enfants dont je suis fier du nom, c'est Droitval dans la forêt de Darney.
Alors, pourquoi tu es fier du nom, fier du lieu? Pourquoi tu racontes-nous comment, parce que tu avais à cet âge-là, tu avais 7 ans.
Et j'avais 10 ans et demi.
10 ans, 10 ans et demi. 10 ans, oui, 10 ans.
Parce que j'ai découvert pas mal de choses, et notamment la nature. On était dans un milieu rural, une ancienne abbaye. Et j'ai découvert pas mal de choses. Les éducateurs nous ont inculqué des activités d'éveil.
Et la rupture avec le milieu familial, c'était pas une douleur, c'était pas une souffrance?
C'était douloureux, assez douloureux, assez brutal et douloureux, mais aussi rédempteur.
Alors rédempteur, tu l'as dit, c'est par ce lieu d'ouverture sur la vie, sur le monde, j'allais dire, mais c'est peut-être plus la vie.
La vie, la culture, la sérénité et là surtout la sécurité au niveau des repas, au niveau de la prise en charge, c'était très important.
Parce que ça, c'était pas ton quotidien avant?
Non, on était en situation de maltraitance et danger. Et il y a eu un placement qui a été impérieux et immédiat.
C'est donc, là, la rupture a été violente quand même par la rapidité de la décision.
Oui, parce que le danger était de plus en plus ancré. Et nous étions en situation vraiment inconfortable et il fallait prendre une décision et le juge des enfants de Verdun l'a prise, oui.
Tout ça, tu le regardes aujourd'hui avec près de 5 ans, plus de 50 ans, hein, c'est passé il y a plus de 50 ans, tu le regardes avec philosophie, plus que ça, c'était une opportunité pour toi?
Rétrospectivement parlant, je pense que c'était une chance inouïe. Une chance inouïe, et je suis actuellement dans un sillon de gratitude, oui.
C'était quelque chose que tu as ressenti immédiatement comme un apaisement?
C'était une corde qui nous a été donnée et qu'il fallait la saisir et ne pas la lâcher. Et ça nous a été une très grande chance pour nous, nous extraire d'un milieu inconfortable.
Alors, aujourd'hui, tu as grandi combien de temps alors à Droitval?
Je suis allé jusqu'à mon brevet, donc du CM1 jusqu'à la troisième.
D'accord. Donc ça veut dire une scolarité dans le secteur de Darney, alors ça veut dire
Scolarisé à Montureux-sur-Saône, dans un collège de Montureux-sur-Saône, où j'ai fait mes premières imitations.
Alors, les imitations, c'est important. Donc scolarisation, collège là-bas, c'est ça? Et après?
Alors, scolarisé dans la maison d'enfants de Droitval en primaire, jusqu'à la CM2. Et ensuite, nous avions une camionnette, enfin un J7 à l'époque, qui nous emmenait à Montureux-sur-Saône, à 7 km.
D'accord. Un enfant heureux qui a profité de la plaine des Vosges.
Oui, la forêt d'Arnay est splendide avec des chênes centenaires. Très, très beau. Et nous allions ramasser des champignons.
Alors, tu as glissé tout de suite des imitations. Tu as glissé tout de suite le mot imitation. Pourquoi tu viens de nous parler d'imitation ?
Parce qu'on était seuls et il fallait faire des petites scénettes entre nous. Il fallait nous occuper.
On était seuls, c'est-à-dire on était seuls à droite.
C'est-à-dire qu'on était livrés à nous. Enfin, il fallait nous trouver des activités. Il y avait des aires de jeu, des aires de sport, du basket, du volley, du handball. Et il fallait aussi développer l'activité théâtre, parce que tout le week-end, on était dans cette maison d'enfants.
Vous étiez donc, combien d'enfants ?
120 garçons.
Ah ouais ? Que des garçons ?
Oui, que des garçons.
120 garçons, oui, donc il fallait trouver des activités, oui, voilà. Il fallait animer ces enfants-là.
Il fallait s'occuper, donc il y en avait qui avaient un ballon de basket, l'autre qui avait une canne à pêche. Et moi, je m'amusais à prendre les... Enfin, comme je vivais avec des éducateurs de manière quotidienne, je me suis amusé à les imiter. Et notamment le directeur de Droitval.
Ah oui ?
Oui.
Ça facilite peut-être pas forcément les relations ?
Si, parce qu'avec le copain, on faisait la dérision.
D'accord. Et c'était partagé, compris ?
Et les personnes imitées, en général, le prenaient très bien, parce que j'étais respectueux dans mes imitations.
Ce goût de l'imitation, ça venait d'où ?
Bah, c'est venu comme ça, parce que c'est venu comme ça, j'ai évolué, et puis c'est venu par un prof de maths aussi, hein, en quatrième,
alors,
à Montureux-sur-Saône.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il m'envoyait au tableau pour me faire des efforts en résultat marquable. Moi j'étais un petit peu perdu, et c'est là que je l'imitais tout en restant sérieux, mais vocalement je prenais ses tics, et comme c'était un prof un petit peu d'haricole, un petit peu pittoresque, je me suis amusé devant les élèves au tableau à l'imiter. J'ai commencé comme ça à me travailler un petit répertoire.
Alors, il y a un peu de mise en scène, un peu d'homme de théâtre, un peu qui naît et qui grandit à Droitval. Il y a cette rencontre qui fait partie d'une deuxième date importante dans ta vie. Voilà, cette deuxième date importante, c'est cette rencontre avec ce fameux prof de maths, du prénom de Marc, je crois, si j'ai bien compris.
Marc Royer, enfin Marc, qui disait « je sors de la fac, je suis paumé ». Donc nous, on s'amusait avec lui, mais ça a été En 77, à l'époque, oui, c'était en octobre 77, je n'ai plus la date précise, mais il m'a envoyé au tableau. Et jusqu'à Noël, ça a été pendant un mois, tous les jours, il m'a envoyé au tableau. Et ça a été un mois où on a tous rigolé. Et le directeur du collège est venu en disant, il y a un problème. Ben, j'ai imité le prof de maths, donc je m'amusais.
Mais donc, c'était alors là, pour le coup, c'est bien la preuve que c'était partagé. C'est-à-dire que le prof savait que tu l'imitais.
Non, il l'a su par un élève,
parce que
je l'imitais de manière sérieuse, et il l'a su par un élève, il dit « Pourquoi vous rigolez après Blin ?» Il a « Bon, vous avez tous faux. » Et il a dit à un élève qui était devant, il dit « Non, mais monsieur Blin, il vous imite. »« Ah bon, il m'imite, d'accord. Ben, je vais à sa place et lui fait le cours. » Et c'est comme ça qu'il a ri de ses propres revers, de ses propres travers.
Donc vous imitiez le prof, ça a été quand même un moment, donc il y a un accord, enfin il le savait que c'était le but du jeu. Est-ce que ça t'a fait progresser en maths ?
Pas du tout, mais j'avais de l'assurance en moi. En maths, j'étais toujours un petit peu, on dit vulgairement, largué. Mais j'ai eu des grosses difficultés. Mes éducateurs étaient bacheliers, donc j'avais une chance inouïe. Ils me faisaient mes exercices, et moi j'allais au tableau pour...
Imiter
le prof. Mes exercices étaient faits, et juste, donc je m'amusais à l'imiter.
Ah, et quel contrat il se passait entre l'éducateur, le prof, la classe, pour avoir un spectacle en fait.
Oui, on s'amusait, mais on aimait bien parce que ça faisait... Après, il faisait attention à ses tics, il regardait ses bras, il regardait tout, parce qu'il savait qu'il était épié.
Je reviens à ce 7 septembre 1972, donc c'est arrivé à Droitval. Comment on vit, quand on n'a pas l'habitude, comment on vit ? Parce qu'on peut avoir une représentation, et tu en es l'exemple contraire, on peut se dire, ça doit être terrible, ça doit être horrible, ça... Mais toi, non, tu disais, c'est arrivé dans ce centre, t'a permis un lieu de sécurisation, attendu, souhaité, et donc délivré par un juge. C'était un lieu d'apaisement, c'était un lieu de construction, on peut le dire.
Je suis très reconnaissant parce que ces éducateurs étaient très dévoués, et ça a été un lieu de construction, mais même de reconstruction. Mes frères, alors quand nous sommes montés dans cette Simca 1100 le 7 septembre 1972 par une assistante sociale qui nous a emmenés de Verdun à Darnay, à Droiteval.
Donc c'est une assistante sociale qui est venue vous chercher chez ta maman.
Oui, oui. Et qui nous a extirpés, excusez-moi du terme, sans nous prévenir préalablement.
Sans vous prévenir.
Non, sans nous prévenir. Et nous sommes montés dans la Simca 1100, mes deux frères étaient derrière, moi j'étais au milieu. Je regardais un peu partout, je ne savais pas où on allait. On est passé à Neufchâteau, la vallée de la Meuse jusqu'à Neufchâteau. On est passé à Contrex-Vittel. Et ensuite, nous sommes arrivés à Droiteval. Et là, Chef Claude, que j'imitais, nous a accueillis.
Ah, tu n'imitais pas encore
Non, mais que j'imitais après.
La route devait être longue.
Très longue, très longue. Parce qu'on ne savait pas où on était. On a mangé sur une aire de pique-nique entre Vittel et Darnay, avec personne sociale. Et on se demandait où on allait. On ne savait pas la destination.
Alors, quel souvenir tu en as, toi, de cette arrivée, des premiers mots, des premiers échanges, des explications qui vous ont été données? Comment tu as vécu ces moments-là?
Terriblement, parce que la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais extirpé, je n'ai pas dormi, je n'ai pas compris. Alors, j'ai pleuré toute une bonne partie de la nuit. Un éducateur de garde est venu me voir. Et il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Et demain, tu auras ton ballon.
T'attendais un ballon?
Ils ont pensé qu'un ballon, ça me ferait du bien.
Ouais. Et cette acclimatation, ou cette arrivée, au bout de combien de temps tu as pu... on comprend le choc, on comprend la difficulté. Au bout de combien de temps, toi, tu as pu... atterrir, te trouver un peu dans un cadre de vie harmonieux?
J'ai mis une bonne année pour reprendre mes repères. C'était brutal. Après, la cicatrice s'est un peu fermée. Et l'imitation est venue assez rapidement. Donc ça adoucit cette douleur.
L'imitation, c'est vraiment un point important. Mais ça voudrait dire... L'imitation, ça veut dire... Est-ce qu'il y a un signe derrière le mot, derrière la volonté de faire de l'imitation, c'est-à-dire être quelqu'un d'autre?
Quand on se met dans la peau des personnages, eh bien, ça nous aide. Moi, ça m'a aidé. Quand j'ai fait passer mon bac, j'ai imité le lieutenant Colombo. Eh bien, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça nous permet d'être dans la peau d'un autre personnage et de tricher, enfin, de ne plus soi-même. Donc, je n'étais plus Jean-Claude Blin, j'étais le prof de maths, ou j'étais l'éducateur ou le directeur de Droiteval. Et je faisais du bien aux autres. Je pense que le rire des autres m'a fait beaucoup de bien aussi. Le public, un petit public, un auditoire m'a fait beaucoup de bien.
Se déporter un petit peu de toi, de ta condition, pour aller épouser celle d'autres, un petit peu les mettre en exergue, avec beaucoup d'humour. L'humour est quelque chose d'important dans la vie.
Oui. Alors, je dirais que l'humour... est le propre de l'homme, comme disait Rabelais, et moi je voudrais, une citation, je voudrais être son gant de toilette. Parce que je trouve que l'humour, ça apaise des moments très douloureux. Donc j'ai eu cette chance.
Alors l'humour et la culture, tu dis souvent.
La culture, l'ouverture d'esprit, les professeurs bacheliers, la nature, la sérénité, les champignons qu'on allait chercher... On se faisait des fricassés de champignons, on allait à la pêche et puis on s'amusait entre nous. Il y avait du sport, on allait à l'extérieur jouer au sport, du basket. Donc c'était, il y avait une ouverture d'esprit permanente. Avec 3 éducateurs par groupe de 15, et c'était une ouverture d'esprit permanente.
La culture, vous la cultiviez justement à Droiteval?
Oui, parce que j'avais toujours, à l'époque, moi j'avais des bouquins... de Pagnol, de Jean de Florette, Château de ma mère. J'allais dans les bois tout seul. Je me m'asseyais sur une souche d'arbres et je lisais quelques pages. Et ensuite, je faisais des vocalises avec un micro tronc d'arbre, des vocalises de Nicolas Perrac, etc., pour travailler ma voix, parce qu'il fallait imiter des gens connus.
Jean Ferrat, c'était une imitation?
Oui.
Ça faisait partie aussi, hein?
Ah, bah, Ferrat était une de mes premières, avec Daniel Guichard. Et puis Lama, et puis après Raymond Devos, après. Donc ça a été dans un spectacle Blin la tête, mes imitations Blin la tête, et j'ai fait encore des très très belles rencontres. J'en suis très fier, et j'ai eu des cadeaux. Comme dirait Corinne Hermès, la vie est un cadeau.
Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement. J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de ta gueule. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement?
Et il a tout dit, Jean Ferrat, que serais-je sans toi?
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Ceux qui nous écoutent en direct viennent d'écouter Que serais-je sans toi de Jean Ferrat. Ceux qui nous écoutent en différé n'auront pas le bonheur de l'entendre. Alors pourquoi ce choix musical, Jean-Claude?
Dans Sans toi, il y a une double connotation. Il y a Que serais-je sans toi avec le toi. Il y a Que serais-je sans toi avec tout cet encadrement et toute cette écoute et cet accompagnement qui était remarquable.
Là, c'est spécifiquement pour Droitval, c'est spécifiquement pour les personnes que tu as croisées dans ta vie.
C'est Françoise qui m'a ouvert cette porte quand
alors,
on
n'en a encore pas parlé de oui. Françoise.
Voilà.
Mais je t'ai coupé, donc tu disais c'est Françoise et...
Alors Françoise et mon placement, mon encadrement éducatif, l'encadrement éducatif, ses écoutes, la culture, etc. C'est tout ça, j'englobe tout ça. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle et autres, c'est aussi Que serais-je sans toi.
Alors, Droitval, on en a parlé. Mmh. Par contre, effectivement, on n'a pas parlé de Françoise. Françoise, c'est improbable, cette rencontre.
Oui, je vendais des fleurs à Verdun, dans les rues de Verdun.
Et ça, t'avais quel âge?
J'avais 10 ans. Donc, j'étais peu scolarisé. Ma mère m'a envoyé vendre des fleurs.
Et je vendais. Donc ça, c'était avant le jugement?
Avant le placement. Ah. Avant le placement. Et j'ai rencontré une femme qui m'a ouvert sa porte. J'avais 10 ans, j'étais jeune garçon. Elle n'avait pas de garçon. Et je suis rentré dans cette maison et j'ai découvert pas mal de choses. J'avais un poster devant moi. Et je me suis dit, la vie, elle est là. La vie, elle est là. Elle n'est pas ailleurs.
Pourquoi?
Parce qu'il y avait de la culture, il y avait une harmonie, il y avait des couleurs, il y avait tout ça, une mosaïque de connaissances de cette dame qui était quand même assez cultivée, hein, qui était professeure d'histoire géo. Donc elle m'a ouvert ce... Et je me suis dit, la vie, elle est là. Donc il faut ne pas abandonner cette trajectoire qui t'est offerte.
C'était donc juste un peu avant que le juge prenne une décision de placement. Donc, comment tu as accueilli cette rencontre-là avec philosophie et pas forcément révolte? Pourquoi c'est Françoise qui... C'est cette personne qui t'a accueilli qui fait que tu t'es senti accueilli? Tu l'as revue, Françoise?
pendant le placement, je les revoyais parce que pendant les vacances scolaires, la maison d'enfants était quelquefois fermée. Et donc, je revenais dans un milieu familial un petit peu problématique. Et je revoyais Françoise qui m'invitait à manger régulièrement avec son mari. Et j'étais bien.
Tu revenais chez eux, tu as gardé contact avec elle longtemps ?
Beaucoup, je lui téléphone tous les 9 mars à la Sainte-Françoise. Je suis fidèle et je vais la voir et je voudrais lui chanter « Que serais-je sans toi ?». Je voulais lui faire un livre avec elle. Nous en avions parlé, nous avions un projet, « Les fleurs du bien », un petit clin d'œil à Baudelaire. Et elle n'y a pas adhéré à mon idée, donc j'ai respecté son choix. Même en changeant les prénoms, et j'ai besoin de verbaliser, d'écrire pour les choses que j'ai ressenties profondément.
Mais il y a une volonté de discrétion, je pense, ou c'est une volonté de retrait.
Elle n'a pas voulu, Françoise, elle n'a pas adhéré, donc j'ai respecté son choix.
Donc ça, c'est le rendez-vous des 9 mars, mais c'est vraiment une rencontre improbable. C'est, tu toquais, tu vendais des fleurs, c'est ça, pour ramener un peu d'argent à la maison.
Voilà. J'en rangeais entre 15 et 20 francs à l'époque.
Et ça, c'est un accueil qui a marqué ta vie.
Beaucoup marqué ma vie, oui.
Alors, on sent l'enseignement présent dans ta vie. Aujourd'hui, tu as œuvré aussi dans un milieu scolaire.
Oui, j'ai voulu rendre. Alors, à l'époque, on parlait de dette. Ouais. Et mes copains de Droitval, on parle de dette. On n'a pas à l'époque, je parlais de dette, donc je suis rentré à Saint-Joseph pour justement rendre ce que j'avais reçu pendant 17 ans à la vie scolaire. J'ai accueilli des jeunes qui ne savaient pas d'où je venais.
Alors Saint-Joseph, c'était un établissement qui était
à l'Axou.
À l'Axou, voilà.
Et j'ai voulu rendre, mais sans dire aux jeunes d'où je venais, c'était très important. J'ai encadré des centres de vacances aussi à Saint-Max, les Prés des Noisettes. J'ai voulu faire des formations parallèles de centres de vacances et scolaires. Et puis l'allemand était aussi très important, donc j'ai donné des cours particuliers. Mais j'ai voulu rendre ce que j'ai de manière discrète, sans dire l'origine. De manière discrète.
D'accord. Donc 17 ans à Saint-Jo, tu faisais quoi à Saint-Jo ?
Moi, j'étais à la vie scolaire, un peu surveillant général. C'est, à l'époque, on appelait ça les CPE. Donc
conseiller principal d'éducation.
Voilà, et puis les jeunes étaient collés, donc je discutais avec eux. Pour eux, c'était une sanction, mais quand ils étaient avec moi, ils étaient contents parce qu'on échangeait.
Alors, est-ce que tu as eu droit à être imité ?
J'ai pas eu le droit à être imité. Non,
est-ce que tu imitais les élèves alors des fois ?
Non, j'imitais des profs de Saint-Jo.
Ah, d'accord.
J'imitais des profs de Saint-Jo, comme quoi la boucle. Hein. Et j'aimais bien parce que le fait de certains ont des démarches, ont des signes vocaux, donc il faut déceler quelque chose. Et j'ai travaillé beaucoup devant des miroirs aussi. C'était très important. Mon père m'a découvert avec devant des miroirs.
Alors c'est l'imitation, c'est un autre pan de ta vie pour lequel tu ne m'as pas forcément donné de date importante, même si tu as donné un point de départ, c'était ce prof de maths. L'imitation, tu en as quand même fait un petit bout de spectacle, un petit bout, pas de carrière, on ne va pas dire ça, mais enfin en tout cas, une activité accessoire.
J'avais une activité avec un pianiste, on a sillonné la Lorraine, on s'est amusé sur les remorques de tracteurs du rural, un peu à la Vanoni, parce que j'écoutais beaucoup Vanoni. Et il m'a dit, reste là, Nancy, t'es bien, ne pars pas à Paris, t'es bien, reste en Lorraine. Et je l'avais contacté, il m'a dit, reste là, t'es bien. À l'époque, il tournait avec Jean-Claude Poirot, c'était sa première partie. Et il m'a dit, reste là. Donc j'ai sillonné, j'ai fait les maisons de retraite, des EHPAD, j'ai fait des comités des fêtes, tout ça, je me suis amusé.
Donc t'as fait... Tu as produit des spectacles
qui s'appelaient Blin la tête.
Blin la tête. Alors, d'animation, c'était à la fois de l'imitation, de l'animation, du spectacle.
C'était un spectacle de 45 minutes avec des hommes politiques de l'époque, quelques hommes politiques. Et puis, il y avait aussi de la chanson, donc Ferrat, Guichard, incontournable, Lama, incontournable. Et puis, Tino Rossi, dans les maisons où j'avais mon spectacle, Tino Rossi, à l'époque. Et on tournait, et les gens ne voulaient pas de sketch parler. Et puis après, j'ai découvert De Vos au Grand Échiquier, et je les trouvais fantastiques. Ouais. Ils jonglaient avec les mots.
Ce que tu aimais, là.
Et j'aimais beaucoup, oui.
Je pouvais être un élève de De Vos, alors...
Et j'ai fait des sketchs sur Droitval, parce que j'ai voulu, quand nous faisons le retrouvaille à Droitval, je fais des sketchs sur les éducateurs. Et des fois, j'ai pris un petit peu des coups de pied dans les fesses. J'ai dit, voilà ce que les paroles maladroites valent. et je me suis amusé comme ça. Et je trouve que l'amusement, c'est un outil formidable.
Troisième date importante dans ta vie, enfin on y arrive, c'est une rencontre, c'est un mariage.
Oui, je me suis marié le 7 septembre, c'est mon placement, 7 juillet 2007, et là, je me suis un peu remis sur les rails, un peu de la rationalité, en ayant rencontré une dame très très rationnelle, cartésienne, et ça m'a fait du bien, parce que j'étais un peu Rousseau, les remis du promeneur solitaire à Droitval, mais je n'étais plus à Droitval, j'étais dans la vie active, et la vie active est aussi une découverte assez brutale.
C'est-à-dire ?
Il faut avoir les pieds sur terre, et puis il faut être réaliste. C'était une page Droitval qui s'est fermée, et ensuite il y a eu le côté vie professionnelle.
En même temps, tu pouvais vouloir rêver d'un monde plus doux, d'un monde différent, tu pouvais rêver le monde, rêver la vie.
Oui, mais je crois que j'étais un peu utopiste. Ah ouais. Et ça m'a fait du tort, parce que il faut s'adapter à des gens, à des sensibilités, et tout le monde n'a pas le même cheminement. Et ça, il faut un peu se recadrer vers des choses plus réelles.
D'où cette date, troisième date importante, je note que c'est que des 7-7 oui. juillet 2007, 7-7-2007, la rencontre avec Sylvie, qui est un nouveau départ dans la vie.
Oui, un nouveau départ et toute une épopée avec des événements heureux et puis tout un cercle d'amis, etc. Puis l'ancrage dans la vie de Nancy, donc, j'ai toujours resté à Nancy et j'ai passé donc le lycée à Nancy.
Donc, du placement à la DAS à Droitval, Jean-Claude, on termine avec cet hymne à la vie de Jean Ferrat que tu aimes tant, avec C'est beau la vie. Merci d'avoir accepté de poser tes valises à RCN et ce partage de vie.
Merci beaucoup de votre accueil et je n'oublierai jamais votre accueil. Ça a été formidable, tous ces échanges qui font partie aussi de toute cette gratitude. Que serais-je sans vous ?
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.